Salut Luc.
Salut Patrick.
Commentaire sur Mme Brosseau?
Oui, quand on veut, on peut. Where there's a will, there's a way. Mais aussi, rappeler que des gens qui ont eu la volonté de l'apprendre, là, il y en a eu beaucoup. Kent Nagano, par exemple.
Mm-hmm. Très bon exemple.
Puis il parlait même français quand, dans ses déplacements aux États-Unis, parfois. Il s'est une fois adressé à la foule à Beverly Hills en français. Andy Cohen, le fils de Leonard Cohen, revendiquait sa dualité linguistique partout où il passait. Il disait « Je suis québécois, c'est un endroit, j'habite à Montréal, c'est une ville où on parle les deux langues.
Mm. » Mais il y avait une base de français avant, Luc, par exemple.
Andy Cohen, ben oui, à cause de son...
Kent Nagano.
Les Kent Nagano. Ouais.
Je ne savais pas.
Mais regarde, Luc, tu sais, parlons de 30 secondes. Là. Dans les grandes années des Canadiens, OK, Scottie Bowman, oui, parlait français, mais c'est un petit gars de Verdun. Parfait. Ouais. Larry Robinson... Steve Schott,
ouais.
Ken Dryden, ouais. Bob Gainey, c'était pas des gars qui avaient grandi à Montréal, là. C'était pas des Anglo-Québécois, c'était des gars qui venaient d'ailleurs au Canada et ils l'ont appris. Parce que à l'époque, je pense, ça aurait été impossible pour eux, ça aurait été inconcevable d'avoir ce statut-là dans la société et de ne pas parler français.
Et la compétition avec Québec, les frères Stachny, ça a l'air
Attends. Mais... Ken Dryden, Bob Gainey, Larry Robinson, c'était avant que Québec arrive dans la Ligue. Là. Je te parle des années 70. Là.
Mais après, ça s'est arrêté.
Oui, tu as raison.
Il y a une chose, par exemple, c'est qu'eux, ils faisaient affaire avec un public francophone. Les interlocuteurs des gens qui ne parlent qu'anglais, ce sont des anglophones. Le premier interlocuteur d'un grand homme d'affaires comme Michael Rousseau, ce sont les actionnaires, les courtiers, firmes, les brokers, tous ces gens-là qui peuvent faire monter l'action. C'est à eux qu'ils parlent au quotidien. Et tout ça, c'est en anglais. T'sais, la Bourse de Montréal, c'est une peanut par rapport à la Bourse de Toronto, qui, elle, est une peanut par rapport à la Bourse de New York. Donc, ça, c'est la langue de l'argent, c'est l'anglais. Parce que sinon, il n'y a pas de raison pour ne pas l'apprendre. Là. Qu'est-ce que tu veux? Eux, c'est ça leur job. Leur job, c'est de faire de l'argent, c'est de faire monter l'action, c'est de faire des communiqués en anglais pour à chaque micro-décision pour dire voici où on en est, voici pourquoi ça a réduit, le chiffre d'affaires a réduit l'an passé, etc.
Mais c'est-tu quoi? C'est la même affaire chez Transat, puis c'est la même affaire chez Air France. Eux autres aussi, ils interagissent avec les mêmes marchés. Ils sont tenus... La langue des affaires dans ces business-là, c'est aussi l'anglais. Puis le PDG d'Air France, il a appris le français. Fait que ça se peut. Mais il faut que la société d'accueil soit exigeante aussi, tu sais. Juste une ou deux fois par année, là.
C'est vrai qu'il faut que la société d'accueil soit exigeante, puis elle ne l'est pas assez, puis elle n'est même pas assez envers elle-même. Tu as vu les deux articles qui sont sortis, un pour l'Université Laval, puis l'autre pour les cégeps, en disant la qualité du français parlé par les futurs professeurs est en diminution importante. Le taux de succès aux examens de français est passé de à peu près comme chose comme 52 à 48%. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs à l'examen de français pour les futurs professeurs. Il y a, dans les cégeps, la qualité mesurée, là, pas dans le corridor, mais la qualité mesurée au test de français est en diminution aussi. Alors, il y a ça aussi. Là. La langue des écrans, c'est pas toujours le français. Hein.
OK. Luc...
Je veux juste parler d'un gars. Un gars qui est exceptionnel, Alex Norris. Alex Norris, le conseiller du Mainland, c'est un gars de Vancouver. Lui, il corrige les textes des autres élus français, il corrige leur français.
Il a grandi à Vancouver, Alex Norris?
Oui. Après ça, oui, il a grandi à Vancouver. Il est venu ici quand il était étudiant. Mais il corrige les textes, les communiqués en français. Wow. Non, ça, c'est pas la bonne façon de le dire. Dis-le plutôt comme ça.
Donc, la preuve que ça se peut.
Oui, vraiment.
OK, dirais-tu que... Sais-tu quoi, on va faire la chronique là-dessus, tant qu'à faire, là? on parlera de la lettre ouverte de Régis Labeaume lundi prochain.
D'accord.
Mais est-ce que... il y a le réflexe de beaucoup de Québécois francophones de dire « Oui, on sait bien, les Anglais sont comme ça. » Il me semble que c'est pas ça du tout.
Non, c'est sûr. De plus en plus, les anglophones sont bilingues. Moi, je dis tout le temps, c'est une question d'intégration. Qui sont tes interlocuteurs? Et moi, ça me surprend de Rousseau parce que sa femme est anglophone. Mais des gens dont des gens dont l'époux ou l'épouse est de d'une autre langue, ils l'apprennent presque systématiquement. Là, je pense à Leslie Chesterman, qui sort avec un français, qui a un français excellent. Je pense à des gens qui parlent pas, qui ont pas un français excellent, mais qui le pratiquent constamment, qui s'en servent. Puis moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les gens qui font des erreurs constamment, qui ont un accent à couper au couteau. Faut que tu tendes l'oreille pour comprendre, mais ils parlent en français. Je pense à Les Perrault, par exemple, du Globe and Mail. Tu sais, il y a tout un paquet de situations. Mitch Garber, quand il parle en français, il y a un paquet d'erreurs, là, particulièrement
L'accent, puis les erreurs ben quand oui. c'est la langue seconde de quelqu'un.
Parfait.
Je m'en fous c'est complètement.
Ça. Comme nous en anglais.
Complètement. Mais
moi,
c'est
ce que
ça.
Je veux, c'est l'effort, puis
le respect.
Si tu débarques de l'avion, ça fait 6 mois, je comprends là, que. Mais ça fait une décennie, 2 décennies que tu es ici, puis que tu n'as jamais fait l'effort, puis tu es sorry, I don't speak French, tu n'es même pas capable de le dire en français. Écoute, ça me fait capoter.
Oui, il y a peut-être une petite affaire que je pourrais dire à leur défense, tu sais, moi, pas une petite, là.
Ben oui, vas-y.
C'est que, en tant que président de l'entreprise, là, ils ne veulent pas avoir l'air d'un cocon, tu sais, d'un cocon. Tu sais, que quelqu'un qui, sur le coin de la rue, te parle dans un mauvais français, pas grave. Si c'est. Mais eux, ils soignent leur image et ils considèrent plus important de ne pas le parler que de le parler mal.
Luc, sais-tu quoi? Je suis pas d'accord avec toi, voici pourquoi. C'est même pas un enjeu. Tu sais, des gars comme ça, quand tu es PDG d'une grande compagnie publique comme Air Canada, tu as un coffre à outils de gestion qui est immense. Tu as appris, là, tu dois en savoir un peu là, sur plein d'affaires. D'abord, l'aviation. Marche comment un avion, puis comment tu gères une flotte, puis etc. Le marketing, les finances, interagir avec les marchés, embaucher, etc., etc., etc. Ça n'a jamais été un enjeu pour lui d'avoir à apprendre le français parce que dans la société où est Air Canada, c'est pas important.
On ne leur en tient jamais rigueur.
Ça, donc, vrai. Let's go, il n'y a pas de problème. Christy, la Caisse de dépôt a même déjà embauché des VP qui ne parlaient pas français.
Ah oui, ben oui. La Caisse de dépôt, Domtar, il y en a plein là, d'entreprises que tu pourrais pas supposer qu'elles embauchent des anglophones unilingues, puis elles le font. Là. Parce que, tu sais aussi, il y a quelque chose. Hein, y a, maintenant, à cause de la façon dont fonctionne la bourse, le marché, ben il y a souvent, quand tu embauches une personne qui a été réputée pour avoir fait des coupures, par exemple. Tu vas dire, lui, je l'embauche, ça va avoir un effet immédiat sur l'action. Tu ne l'embauches pas parce qu'il parle français, tu l'embauches ou parce qu'il peut être bilingue ou parce qu'il va bien communiquer avec ses employés. Tu l'embauches parce qu'il y a une réputation de coupure, ou il y a une réputation de croissance, ou il y a une réputation de rationalisation. Et ça, c'est ça qui va orienter l'action. La langue, là-dedans, il sent torbinouche.
Hey, Luc, je te souhaite une excellente fin de semaine.
Et à toi de même.
Merci.
Et à vous tous de même.
Salut.
Bye.
Et désolé, tantôt, j'ai appelé Ruth Hélène Brousseau. C'est Brosseau, évidemment. Désolé, j'ai eu ça de débaptiser le monde. MC Robert.
Oui, bonsoir.
Le quiz s'en vient.
Le quiz s'en vient. Et pour ajouter, tu sais, SNC-Lavalin, là, je termine avec ça. Là.
Fleuron québécois. Le Québec Inc. s'est bâti en partie via une des firmes comme SNC-Lavalin.
Je vais faire une analogie de hockey. Tu sais, Piqué-Souban, à la fin, il disait juste « merci beaucoup ». Et tu te rappelles comment on était content?
Ben oui.
Donc, le monsieur, là, il aurait écrit 3 phrases au son, là, juste dire « je vais faire un effort », on l'aurait applaudi. C'est tout, ça prend juste ça.
Je vais te donner un autre exemple, il y a des gens qui me traiteront de colonisé s'ils veulent. Je m'en vais dans une boutique ce matin, puis j'avise un des vendeurs en français, évidemment, et il me répond « je suis désolé, mon français n'est pas encore assez bon ». Je passais à l'anglais. C'est correct. Mais moi, le « sorry, I don't speak French », comme si c'était tout à fait normal.
Comme c'est une maladie, là.
Peut-être que ce gars-là, dans 6 mois, il parlera. Peut-être qu'il débarque du train puis qu'il vient d'arriver à l'université, je ne sais pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui sont pognés. Ils embauchent peut-être du monde comme ça. Je le conçois. Es-tu capable de me dire « merci, bonjour, je ne comprends pas »? Oui, ça s'apprend. 17h26.